Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast qui donne la parole aux pères pour discuter de paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'entendre l'histoire de Daron de Grégoire, que vous connaissez sans doute plus sous les réseaux sociaux, sous le nom de Major Movement. Est-ce qu'on dit Major Movement ou Major Mouvement? Qu'est-ce qui se passe?
Ça dépend des jours et ça dépend des gens. Donc, j'ai envie de te dire, sens-toi libre. Si tu veux du Major Movement, parce que t'as envie de te la péter un peu, ça marche.
Mais t'es américain, non? Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est sur Instagram, quoi, tu vois. Faut Major Movement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Grégoire d'être là. Comment tu te présentes déjà de base? Toi, de formation, t'es kiné, si je me trompe pas, c'est ça?
Ouais. Et je mets un point d'honneur systématiquement à me présenter comme kiné. Un truc qui m'énerve, c'est quand les gens me disent « Mais si, tu sais, c'est l'influenceur. » Je dis « Alors, t'es gentil, mais je me suis quand même pas tapé 5 ans d'études. » Alors, j'ai rien contre les influenceurs, mais je suis très, très fier du parcours que j'ai eu pour avoir mon diplôme de kiné. Donc c'est un poil réducteur quand on me dit influenceur. Alors, je dirais que je suis kiné et qu'en plus de ça, je vulgarise mes connaissances sur les réseaux sociaux.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, très rapidement, d'avoir envie de te lancer dans les réseaux sociaux? Parce que tous les kinés font pas ça.
Exactement, et en fait même je suis le premier à m'être lancé. Je me suis inspiré pour le coup des Américains qui le faisaient et je trouvais ça génial. J'avais appris plein de trucs, plein de trucs dans le domaine du sport, ce que ça veut dire quand t'engages ton dos sur un squat, ce que ça veut dire pourquoi c'est important de travailler les fessiers pour les douleurs récurrentes de genoux chez le coureur. Tout ça, je l'ai appris sur Instagram et pas à l'école en fait de kiné. Et du coup, je me suis dit, on a cet outil-là qui est énorme en termes de possibilités de communication. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait un Français qui le fasse, Et ça, je me suis dit ça quasiment tous les jours pendant 4 ans. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a personne qui le fait? Et un jour, je me suis dit, bah, s'il n'y a personne qui le fait, peut-être que ça veut dire qu'il faudrait que ce soit toi.
Personne ne l'a fait parce que tu ne l'avais pas encore fait, tout simplement.
Exactement.
Mais c'est vrai que ce n'est pas le même métier de base. Donc,
non, du tout. Voilà. Et cela dit, tu vois, maintenant, bon, ça va faire 2 ans et demi que je le fais. J'ai commencé vraiment à me familiariser sur le fait d'être filmé, hein, parce que c'est pas naturel du tout, en fait, d'être naturel quand t'es filmé. Et du coup, j'ai commencé à réussir à être naturel, à passer des messages très, très courts qui vont vite pour faire passer un message de santé. Donc, je me suis bien plié à l'exercice et je prends vraiment du plaisir aujourd'hui. Et tu sais quoi? Ça me sert en plus dans ma pratique. Cette forme de mise en scène, de simplification, d'ultra simplification du discours médical. Ça me sert dans ma pratique quand j'ai des patients qui viennent me voir ou avant, par exemple, pendant 20 minutes, j'allais leur expliquer le pourquoi, les tenants, les aboutissants, et puis tu vois que moi, ça me passionne, mais eux, ça les emmerde. Et si tu finis juste par leur dire, bah, écoutez, vous savez quoi, on va travailler les fessiers, non seulement vous allez avoir un bon boule, et en plus de ça, ça va vous limiter votre risque de survenue d'entorse de cheville, boum, ça ferait un
mieux
presque. Ça marcherait sur un tweet. Et donc, ça va mieux.
Bon, donc je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode si vous voulez aller suivre Grégoire sur Insta, parce que c'est vrai que tu donnes vraiment à la fois des bons conseils pour les gens pour bouger mieux, peut-être se renforcer musculairement, etc., et donc pour finalement que ton corps aille mieux. En tout cas, je tiens à dire que bon, moi j'ai des problèmes de psoas depuis des années. Alors je savais pas ce que c'était que le psoas, mais vraiment j'ai écumé des tas et des tas de kinés, d'ostéos, de médecins du sport, etc., etc. Bon, après je pense qu'il s'avère aussi que c'est pas mal de stress. Hein, tu vois, mais tu m'as vraiment facilité la vie avec toutes tes vidéos qui sont notamment en rapport avec le psoas et bouger le dos, bouger les hanches, etc. Ça m'a vraiment aidé, quoi. Donc voilà, je voulais te le dire en passant.
Merci beaucoup.
C'est vraiment
pas,
cool.
C'est pas le thème du podcast du jour, mais c'est vrai que le podcast, le psoas mériterait un podcast à lui tout seul.
Bah, et je pense que ça va un peu avec la paternité quand même, parce qu'il y a un côté, t'en as plein le dos, tu vois, et que ça va pas mal avec.
Ouais, moi je vais te dire, tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper important, parce que ça va nous faire une belle transition. Le côté psoas, pour moi, c'est typiquement la douleur du mec de la jeune paternité. En gros, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui a été mon cas et je pense qui a été ton cas, entre le moment où tu commences à être papa, c'est souvent le moment, allez, je vais grossir le trait, mais on a 30 balais, on commence à avoir vraiment des ambitions à la fois familiales, à la fois professionnel, mais en même temps, on commence à sentir que notre corps, il dérive dans un sens qu'on n'a pas vraiment envie, et on va commencer à faire du sport, mais de manière parfois complètement anarchique, de manière très intense, à vouloir en même temps perdre du poids et faire du sport et prendre des pecs. Et du coup, tu charges un peu de tous les côtés, tu dors mal, tu as du boulot par-dessus la tête, et tu vois, et en même temps, tu as envie de te muscler un peu, et c'est là, tu exploses de tous les côtés. Et souvent, on va te dire, bah, c'est à cause de Bob Soas, alors pourquoi pas. Mais tu vois, tu as ce côté multifactoriel qui est assez typique des mecs entre 25 et 40 balais, tu vois.
Alors effectivement, pour revenir au thème du podcast, je te remercie déjà de venir en discuter, parce que je t'ai vu de temps à autre sur ton compte Insta mettre des petites bribes de réflexion de père, en fait, par rapport à ta paternité, etc. Et en fait, je me suis dit, ok, je pense que Grégoire serait un très bon client pour le podcast. Avant d'aller plus loin, comment ça se passe en termes d'enfants? Combien en as-tu conçu jusque-là?
Alors, j'en ai conçu deux.
Bravo.
J'en ai conçu deux qui ont 5 ans et mon deuxième va avoir 2 ans dans un mois. Et ça se passe très très bien. On s'est marié avec ma femme il y a maintenant 6 ans. On est en couple depuis 10 ans. Et donc, la moitié des enfants est née aux Antilles. Et puis après, on est rentré et maintenant on est dans le sud-ouest.
D'accord. T'as quel âge?
33 maintenant.
D'accord. La question que je pose à souvent tous mes invités, c'est comment t'es venu en fait cette envie de faire des enfants?
Depuis très jeune. Vraiment, je me suis vu père, je pense, dès l'adolescence. Je savais que j'avais pas envie d'être père à 15 ans, mais en tout cas, j'ai eu un désir d'enfant qui était assez jeune, quoi. Je pense que c'est peut-être né autour du rugby, tu vois, si je devais mettre... Alors, j'ai joué au rugby pendant 15 ans et je me rappelle avoir fait un match, tu sais, de fin d'année où t'appelles les papas et les enfants sont sur un terrain de rugby. Malheureusement, moi, mon père est handicapé, du coup, il n'avait pas pu venir jouer. Et j'avais ressenti pas mal de tristesse et de frustration de voir tous ces mecs-là qui étaient avec leur papa et de voir que certains avaient des papas qui couraient, qui savaient jouer au rugby, qui savaient pas jouer au rugby. Et de voir que moi, j'étais tout seul, je m'étais dit, pas cool, quoi. Et à l'inverse, je m'étais dit, demain, moi, j'aimerais pouvoir partager des samedis après-midi à jouer avec mes enfants. Et du coup, aujourd'hui, le samedi après-midi, je joue avec mes enfants.
Ils sont obligés. Est-ce qu'ils ressentent une petite pression de se mettre au rugby ou pas?
Non, parce que clairement, alors le rugby, c'est vraiment l'école de la vie, mais dans plein de sens, parce que t'apprends à la fois la camaraderie, la souffrance, dans une certaine forme, à la fois l'humilité et la solitude et la sensation de groupe. Ça t'apprend énormément de choses, le rugby. Mais je pense que pour pouvoir apprendre tout ça, il faut que ça vienne de toi. Et j'ai été aussi entraîneur de rugby chez les jeunes et j'ai vu le nombre de gamins qui allaient au rugby parce que leur papa et ou leur maman leur disaient d'y aller en disant « Vas-y, c'est l'école de la vie, tu vas apprendre à prendre des coups, tu vas ramasser !» Et le gamin, il n'avait qu'une envie, c'était de jouer au foot. Et c'est pire que tout, en fait. Donc, zéro pression de ma part. Après, je plante des graines, c'est-à-dire que souvent, quand je regarde les matchs, ils viennent à mes côtés. Et puis, s'ils veulent regarder, ils regardent. Et si jamais demain, ils voient un ballon ovale, ils seront plus sensibilisés au ballon ovale qu'au ballon rond.
Petite inception.
Exactement.
Comment s'est passée ensuite la rencontre avec ta compagne? Est-ce que, assez rapidement, l'idée d'avoir des enfants est venue dans l'histoire?
Non.
Okay.
Non, pour tout te dire, donc nous on s'est rencontrés avec ma femme il y a 10 ans autour d'un terrain de rugby. Elle est plus âgée que moi, elle a 6 ans de plus que moi, et elle était très axée. Elle est encore, mais plus à l'époque, très axée sur sa carrière. Et du coup, elle se voyait pas du tout avoir des enfants parce qu'elle savait, malheureusement, c'est une réalité, que ça allait mettre un gros frein dans sa carrière. Et malheureusement, l'âge pour elle avançant, arrivée à 34 ans, elle se voyait repartir encore sur 3 ans d'études de plus. Et je lui ai dit, ce serait quand même pas mal qu'on ait cette conversation et qu'on se dise, qu'est-ce que tu veux faire? Et ça a été un moment qui était assez difficile parce qu'en fait, je pense que pour la première fois, elle a compris que elle allait devoir faire un choix, en fait. que si elle choisissait entre ses études, sa carrière personnelle, et potentiellement avoir plus de difficultés à concevoir des enfants derrière. Et j'ai eu le mauvais rôle dans l'histoire parce que ce choix-là, c'est moi qui lui ai suggéré. Et je dis bien suggéré, pas imposé. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, voilà, il faut que tu le saches, parce qu'elle, elle avait peut-être pas envie de se mettre face à ce problème-là. Je lui ai dit, c'est pas moi qui vais les porter, je respecterai, quoi qu'il en soit, ta décision, mais je pense qu'il est bien que tu le saches. Et elle est revenue 2 jours après. Alors, on vivait ensemble, hein, mais 2 jours après, elle a ramené le sujet sur la table et elle a dit, OK, on se lance. On se donne 6 mois pour concevoir. Et si jamais je tombe enceinte avant la date de rentrée du master, je décale d'un an. Et puis on se lance. Et coup de chance, elle est tombée enceinte en un mois, même pas. Et puis après, elle a accouché. Et quand elle a accouché, qu'elle est arrivée dans le master, elle a fait le master, elle a dit « j'ai changé complètement mes priorités. Aujourd'hui, j'aime être maman et mes priorités ne sont plus sur ma carrière. » Je dirais pas que ça a été pour elle un sacrifice. Je pense que ça a plus été en fait un changement de priorité. Elle s'est dit « j'avais imaginé cette vie-là pour moi sans contrainte à fond dans le travail parce qu'elle avait vraiment un désir d'autonomie complète. Et je pense qu'elle avait peur que, avec des enfants et avec un mari qui travaille, elle perdrait en autonomie. Et finalement, son autonomie, elle l'a complètement conservée. Elle est évidemment libre de tous ses choix de carrière. Et moi, je l'appuie à chaque fois. L'avantage, c'est que moi, en tant que kiné, j'ai une profession libérale. Ce qui fait que si elle veut se déplacer, je pourrais toujours la suivre. Si elle veut, je te dis n'importe quoi, tu vois, elle est ingénieure aéro. Elle a dû partir aux îles Fidji pendant 3 semaines. Moi, j'ai la possibilité sur ces 3 semaines de modifier mon emploi du temps pour être plutôt à la maison, pour ce genre de choses-là. Donc, tu vois, ça a été vraiment une adaptation complète à la fois du couple, mais tout en respectant ses envies, ses intuitions et qui ont évolué avec le temps et avec l'arrivée des enfants.
Il y a un sujet qui est très intéressant là que tu pointes et je pense pas qu'on en ait beaucoup parlé parce qu'il y a 60 épisodes maintenant d'Histoire de Daron, mais d'avoir cette différence d'envie d'enfant. Et que, en fait, souvent, ça se passe dans l'autre sens. Souvent, c'est plutôt la femme qui vient dire, en fait, il est temps pour moi. C'était une discussion que vous aviez déjà eue ensemble, j'imagine.
Ah oui, tous les deux, on voulait des enfants. Mais je pense que c'est...
Ok, vous étiez d'accord sur le fait d'avoir des enfants.
On était d'accord sur le fait d'avoir des enfants. Après, mon épouse, je crois, sa plus grande force, c'est que c'est quelqu'un qui vit dans l'instant présent. Mais vraiment, tu vois, c'est-à-dire que... Elle se projette pas dans le temps, ce qui ni dans un sens ni dans l'autre. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Le plus gros inconvénient, c'est que moi, je suis un peu pareil et du coup, tu vois, on va être du style à se retrouver le 7 mai en disant ah merde, demain c'est férié, on n'a pas prévu de week-end, qu'est-ce qu'on fait? Et tout est déjà pris et donc tu vois, typiquement, on n'anticipe jamais les vacances. Mais à l'inverse, quand elle avait commencé à envisager de continuer à se former. Elle s'était pas projetée sur se dire « tiens, j'aurai 38 ans à la fin de ma formation, peut-être que mon corps aura changé à ce moment-là. »
Ok. Comment t'as vécu, toi, en tant que kiné, personnel soignant d'une manière ou d'une autre, la grossesse côté père ?
La première, avec beaucoup d'angoisse, il y a eu une menace d'accouchement prématuré à 4 mois et demi. Et comme je t'ai dit, mon épouse, donc elle s'appelle Tania, je peux le dire parce que d'habitude je le dis pas, mais comme là j'ai sorti mon livre 10 clés pour un corps en bonne santé et que ma dédicace d'entrée, je l'ai fait à son nom, maintenant les gens savent qu'elle s'appelle Tania.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Donc on a été interrompu, Grégoire, mais tu disais de façon extrêmement subtile et bien amenée vraiment que effectivement tu sortais un bouquin ouais. ces derniers jours où tu sors un peu du game de l'internet.
Ouais, en effet, je l'ai amené de manière très subtile, mais ça me tenait à cœur de parler du bouquin quand même.
Ouais, bien sûr. J'allais y venir, hein, tôt ou tard, tu vois.
Non, bah t'inquiète pas. Mais on peut enchaîner.
Donc oui, tu parlais de Tania et je te demandais la grossesse.
Comment je l'ai vécu.
En point de vue, voilà.
Donc, de manière très stressée et très stressante, et parce que donc menace d'accouchement prématuré à 4 mois et demi, et ben moi je sais ce que c'est, hein, les séquelles sur les bébés qui peuvent accoucher si tôt, et donc j'avais tout ça en tête. Et l'avantage, c'est que Tania, elle a rien eu de tout ce stress-là. J'essayais de pas trop lui communiquer. Je stressais quand j'étais au boulot, je stressais quand j'étais dans la voiture, mais j'essayais un peu de lui cacher quand j'étais à la maison. Et elle a vécu probablement la meilleure partie de sa vie parce qu'elle était alitée, stricte. Et elle aime bien être alitée stricte. Tu vois, quand je te disais qu'elle avait un peu changé de plan de carrière, qu'à une époque c'était la carrière en premier, bah finalement elle s'est rendue compte que d'être allongée, de blander devant la télé, il n'y avait pas Netflix à l'époque, bah c'était pas si mal.
Ok, c'est intéressant cette histoire parce que j'ai parlé justement hier avec un autre papa qui me racontait qui vient tout juste d'être papa et qui me racontait qu'il avait eu des énormes angoisses en fait et qu'il n'en avait pas parlé non plus. Et qu'il restait tout seul dans son coin. Et je pense que ça, c'est un truc un peu de mec, tu vois. Et je comprends après l'idée de vouloir préserver ta femme qui est enceinte et qui a d'autres choses à foutre de tout ça. Et lui me disait qu'en fait, il avait fini par en parler genre 15 jours ou 3 semaines avant l'accouchement, parce que vraiment, il n'en pouvait plus et que ça lui avait fait beaucoup de bien, tu vois, de partager ça. Et même à sa compagne, en fait, ça lui avait fait beaucoup de bien aussi qu'elle puisse partager le stress de son chéri, de pouvoir peut-être le partager en deux, quoi, tout simplement.
Moi, je lui en ai parlé, mais quand on est sorti de la période entre guillemets un peu à risque, je l'ai amené un peu avec humour. C'est-à-dire que je lui ai dit, putain, en fait, moi, je te l'ai pas dit, mais à ce moment-là, je flippais grave. Mmh. Elle dit, ah non, mais moi, j'étais bien, hein. J'étais tranquille, je savais que ça allait bien se passer. Et après, moi, je lui en ai pas parlé parce que pour le coup, je sais que le stress, hein, véhicule des hormones dans le corps humain. Le stress, c'est pas un truc fumeux qui se passe dans notre tête, non, c'est réel, c'est des molécules et qui vont du coup avoir un effet dans la circulation sanguine et de la maman et du bébé. Donc, moi, je me suis dit, il n'y a pas de raison que ma propre angoisse, si elle arrive à la gérer et donc à gérer le calme du bébé, interfère dans tout ça, tu vois.
Je comprends. Et tu as la sensation que le fait d'être soignant et de savoir justement toutes les répercussions que ça pouvait avoir sur un enfant prématuré, t'as sans doute pas aidé à ce moment-là à gérer ce stress-là.
Exactement. Okay. Bah, d'un côté, c'était double. C'est-à-dire que j'ai vu des enfants prématurés, j'ai vu des enfants IMC, donc infirme moteur cérébral. Et pour autant, très bien vivre leur handicap, très bien vivre leur handicap au sein de la famille, évoluer à leur rythme et avoir une vie tout à fait heureuse malgré la présence d'un handicap. Donc moi, j'étais tout à fait ouvert et bienveillant avec cette possibilité-là. Donc en fait, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était double. C'est que d'un côté, je savais que si ça devait arriver, on allait savoir gérer, que ça allait être une autre vie que celle qu'on avait prévue, mais qu'on allait pouvoir l'encaisser pour nous, pour le couple et pour le bébé. Mais en même temps, bah tu sais que parfois ça se passe pas bien et que malgré toutes tes bonnes intentions, bah parfois c'est le couple, parfois c'est l'enfant, parfois il y a même pas de handicap parce qu'il y a même pas de vie, parfois tu vois. Donc je savais que parfois ça peut mal se passer mais bien se terminer, et parfois ça peut mal se passer mal se terminer. Donc je crois que c'est encore, tu vois, nous on est kiné, je suis pas médecin, mais on est formé à ça, de se dire que parfois tu sais comment est-ce que ça peut mal tourner, à quel point ça peut mal tourner. C'est une réalité que tu as vue, que tu connais, et ça t'enlève une part de naïveté de se dire mais non, ça va bien se passer. Et donc toute la difficulté, c'est d'essayer d'être le plus honnête envers soi-même et de se dire mais non, ça va bien se passer parce que de toute façon, dans 99,9% des cas, ça se passe bien. Et ce petit 1,1% des cas, je suis nul en maths, mais vous avez compris l'idée, mais que globalement, c'est très rare.
Ok, je vois exactement. Comment s'est passé l'accouchement pour toi, qui est toujours un moment super magique?
C'était super. C'était un beau moment à deux, puis à trois. On était en Guadeloupe. L'accouchement en lui-même, on avait une super équipe. Ça s'est super bien passé. Ça allait vite. On était avec des potes quand elle a perdu les os, en lendemain de soirée. C'était vraiment tout. Et puis, c'était l'aboutissement finalement, tu vois. Ça, elle est née, je crois que c'était à 38 semaines. Donc, dans les temps, dans les délais, un beau bébé qui va bien, tout se passe bien. Donc, un vrai ouf de soulagement, beaucoup d'émotions pour tout le monde. Donc, non, c'était énorme. Et puis, t'as cette sensation d'être complètement en dehors du temps, tu vois. J'ai pas d'autres souvenirs dans ma vie d'avoir vraiment cette sensation d'avoir une forme de vie qui soit aussi entre parenthèses de tout le reste. T'as l'impression vraiment d'être dans une bulle que rien ne peut casser.
Et elle se concrétise comment, cette bulle ?
Eh bien, cette bulle, t'essaies de la maintenir. Et là, pour le coup, tu vois, ça a un peu changé dans le sens où on était en Guadeloupe et enfin, je peux le dire, hein, c'est une réalité. Hein. Les conditions sanitaires en Guadeloupe sont désastreuses. Le CHU a brûlé depuis maintenant 4 ans. Nous, on était partis avant. Mais il y a un énorme problème, mais vraiment, hein, de santé publique là-bas, parce que la Guadeloupe est complètement délaissée de la métropole. C'est le cas pour quasiment tous les dom-toms. Le gouvernement passe son temps à faire des belles promesses, mais il n'y a pas de fonds. Et comme il n'y a pas de fonds, bah, c'est un hôpital qui est vétuste, où la qualité de la formation de certains professionnels laisse franchement à désirer. Et en périnate, ça se concrétise par, t'as 6 interlocuteurs qui ont 6 messages différents à te donner, dont l'une qui va te dire oui, c'est normal qu'elle pleure, il faut surtout la laisser pleurer. L'autre où tu arrives et tu prends le bébé dans tes bras et on te dit non, mais c'est pas au papa de prendre le bébé dans les bras. L'autre où moi j'avais ma fille qui dormait sur moi et on te dit ah, vous devriez pas la laisser dormir sur vous parce qu'elle va s'habituer et du coup après elle va pleurer. Et puis t'as la pédiatre derrière qui dit non, n'écoutez absolument pas tous les conseils qu'on a pu vous donner là-dessus. À chaque fois, je fais des réunions de groupe pour leur dire d'arrêter de véhiculer ce genre de message-là, mais elles le font dans mon dos. Et donc là, t'arrives, moi en tant que professionnel de santé qui essaye et qui connaît la réalité au quotidien derrière ce type de message-là, à savoir, on a des connaissances qui pourraient faire consensus, mais en gros, je te dis une réalité. Typiquement, allez, on va prendre un sujet qui divise les étirements. Les étirements, tout le monde comprend que faire les étirements, bah, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des modalités. Pour certains, ça va être bien, pour certains, ça va être moins bien. Mais en gros, bah, chacun fait un peu à sa sauce. Et personne va se dire, mais au fait, la littérature scientifique, elle dit quoi? Eh bien, tu vas avoir la même chose pour la périnate, sauf que bah, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, en fait. Et que tu n'as pas envie d'avoir des professionnels de santé qui te donnent leur propre avis, qui est un avis personnel, issu d'une expérience personnelle, et qui n'a aucune valeur ni scientifique, ni médicale. Donc ouais, moi ça me faisait chier d'avoir ma fille dans les bras, de passer un des meilleurs moments de ma vie à pouvoir faire une sieste, et d'avoir quelqu'un que je ne connais pas qui vient là et qui me dit ah, mais faut pas s'étonner derrière qu'elle pleure, c'est parce que vous l'avez pris dans les bras et qu'elle fait une sieste sur vous. Ben ouais, elle a à peu près 12 heures de vie, donc je vais peut-être pas commencer à lui montrer comment la vie ça peut être dur quand son père l'abandonne, quoi. Et donc tu vois, je te vois sourire parce que tu t'es dit mais c'est d'une aberrance complète. Ouais. Et donc pour ça c'était un peu à double tranchant cette période là où d'un côté bah heureusement que la pédiatre était capable de rattraper le coup, hein, de faire un peu acte d'autorité en disant non, mais je briefe mon équipe pour qu'elles arrêtent de véhiculer ce genre de message là. Tu te dis ah, bah je sentais bien que mon intuition de père qui n'a que 12 heures se disait bah non, si j'ai envie de passer du temps avec ma fille dans les bras. Mais tu sais, t'es dans un tel état de fatigue à ce moment-là que tu peux juste te dire, bah attends, c'est son boulot, elle sait de quoi elle parle, quoi. Et puis on n'est pas habitué à remettre en question l'autorité d'une personne compétente, encore moins dans le domaine médical, encore moins quand t'es professionnel de santé. Mais tu sens qu'il y a un truc qui cloche dans le conseil qu'on te donne.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voilà. Okay. Je comprends. Aujourd'hui, comment s'est passée la deuxième grossesse, ça a été? Parce que tu parlais...
La deuxième grossesse, pour moi, était un peu particulière. Où tu as bien remarqué que j'ai dit pour moi, c'était une période de ma vie qui était très, 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 très dure. L'une des périodes de ma vie qui était la plus difficile, où je lançais Major Mouvement. Major Mouvement avait 9 mois, où j'y passais énormément, énormément de temps, beaucoup trop de temps, où financièrement, ça me ramenait rien et je commençais à perdre espoir. Donc, je travaillais 8 à 10 heures par jour uniquement sur les réseaux sociaux, en plus de mon métier de kiné, en plus de ma vie de couple, en plus de mon sport, en plus de ma fille. Et du coup, cette période-là, j'avais vraiment les œillères, j'avais vraiment la tête complètement sous l'eau, j'étais incapable de comprendre, voir ce qui se passait autour de moi. Et là, encore une fois, j'ai la chance d'avoir Tania qui vit dans l'instant présent, ni dans la rancœur, ni dans qu'est-ce que ça va être demain. Et juste parce qu'elle vivait le moment présent, elle a vécu la grossesse, elle l'a bien vécu. Moi, j'étais complètement dépassé par tous les événements, j'étais complètement paumé, et elle m'en a pas tenu rigueur. C'est un des plus gros regrets de ma vie, c'est d'avoir été peut-être très distant, très dans ma bulle, trop dans ma bulle à cette période-là. Heureusement, ma femme ne m'en a absolument pas tenu rigueur. Heureusement, j'ai pu finir par sortir la tête de l'eau le jour où Major Mouvement, j'ai appris que je pouvais pas passer 4 heures sur une vidéo à la montée pour faire seulement 1 minute sur Instagram. J'ai appris que tout le travail que je fournissais, à un moment donné, il fallait bien que j'ai des sous qui en sortent, hein, et que le bénévolat, c'était bien beau, mais qui avait un prix, que ça avait un prix sur ma concentration, sur mes patients, sur ma vie perso, et qu'il fallait pas que je mélange tout. Et donc cette période-là de ma vie a duré quasiment, allez, je dirais 9 mois et 1 an. Et quand j'ai commencé à ressortir la tête de l'eau, mon deuxième, Isaac, avait 3 mois. Et on a pu reconnecter à partir de là. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi d'en parler, parce que j'ai honte de cette période-là de ma vie, parce que à vouloir jouer sur tous les tableaux, à vouloir être partout, j'étais surtout nulle part. Et j'estime... mais très très fort, 2 choses. 1, la chance que j'ai eue d'avoir une femme qui m'a soutenu à ce moment-là, et d'avoir des amis qui m'ont soutenu à ce moment-là. Des amis qui sont capables de te dire « Non, là, Greg, tu déconnes, là. Là, Greg, tu passes trop de temps sur ton projet. Alors, ton projet, il est cool, t'as peut-être plein d'ambitions, mais tu passes trop de temps, il faut que tu lèves le pied. » Et de te donner des vrais outils pour t'organiser, de te dire « Mec, on sent bien que quand on te parle, t'es pas là parce que t'es en train de penser à autre chose. Donc, prends des notes de ce que t'es en train de penser. » Concrètement, tu vois, il y a un conseil qu'on m'a donné sur de l'organisation, et c'est un conseil que j'applique systématiquement. Quand j'ai une nouvelle tâche à faire, typiquement Fabrice qui m'envoie un DM pour me demander s'il veut faire le podcast, Fabrice, je le mets dans 4 cases. Est-ce que c'est urgent et à faire par moi? Est-ce que c'est urgent mais que je peux déléguer? Est-ce que c'est non urgent mais à faire par moi? Ou est-ce que c'est non urgent et que je peux déléguer? Toi, quand tu m'as envoyé le DM, je me suis dit, c'est non urgent, mais il n'y a que moi qui peux le faire. Et je le mets au moment où tu me demandes, je regarde mon planning, ce que je n'avais pas. Aujourd'hui, tout ce que je fais, tout ce que je note, mais tout, je le note sur mon agenda Google. Donc ce matin, j'avais une modif à faire sur une vidéo sur le piriform, j'avais de la comptabilité à faire, j'avais un poste à créer pour un de mes partenaires. Je me le suis noté. Et du coup, le matin, quand je me réveille, je suis fraîche. J'ai rien dans la tête si ce n'est que de déposer les enfants à l'école, de prendre mon petit déj, de déjeuner. Et une fois que j'ai fait ça, à 10 heures, j'attaque. OK, j'ai quoi sur mon planning aujourd'hui? Je me suis complètement déchargé de la charge mentale et en fait, je me rends compte a posteriori que sur cette période qui était très difficile, je me noyais tout seul dans un verre d'eau parce que j'avais tout dans ma tête, rien d'écrit. Ce qui peut marcher quand t'es kiné. Quand t'es kiné, ta journée, elle commence de 9h à 18h, tu bosses, tu vois tes patients, à la fin de la journée, c'est fini. Par contre, quand t'as une entreprise, et Major Mouvement, c'est devenu une entreprise avec des objectifs à court, moyen, long terme, tu peux pas tout avoir dans ta tête. Donc ça, c'était mon petit conseil organisation pour les pairs qui ont complètement la tête sous l'eau et je pense que ça peut être intéressant. Et donc, je suis content d'en être sorti. Je suis content d'avoir aujourd'hui cette capacité d'organiser mes journées pour que quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec eux, d'être vraiment avec eux et de pas être ailleurs.
Et t'as pas la sensation, avec le recul aussi, que t'étais peut-être en train de mettre au monde ton projet, tu vois, et que bah tout comme une grossesse, ça t'a accaparé. En fait, je te dis ça parce que aussi je ressens de la culpabilité, tu vois. Et là où, alors je comprends, hein, tu vois, d'où vient cette culpabilité, mais il y a aussi un côté où, je sais pas, j'ai la sensation que t'étais en train de mettre au monde quelque chose, toi de ton côté, quoi.
Alors, c'est une bonne question, Fabrice, et je vais être très franc. Beaucoup de gens, et ça a été la même chose pour le livre, ça a été la même chose quand j'ai monté mon cabinet, où là, le projet Major Mouvement, les gens font référence à ces projets professionnels comme des bébés. Alors, t'es content d'avoir sorti ton bébé? Et pour le coup, moi, ça me fait l'effet tout inverse. C'est-à-dire que demain, si mon cabinet venait à se casser la gueule, si Major Mouvement venait à se casser la gueule, ou si mon livre venait à pas se vendre, je m'en fous. Par contre, mon fils, quand il a un rhume, ou s'il venait à lui arriver la pire des choses, mais ce serait la fin pour moi. Donc, comparer ça à mes bébés, je trouve que c'est leur accorder mille fois trop d'importance par rapport à ce que c'est réellement un bébé. Un projet sur le long terme, c'est un projet qui se construit. Enfin, la paternité, ça n'a rien à... Enfin, je pense, hein, ouais, c'est oui. Mon avis. Je n'enlève rien aux gens qui pensent que leurs projets pro sont leurs bébés, hein. Mais c'est pas comme ça que moi je le ressens, c'est pas comme ça que je le vis.
Mais pourtant, à l'époque, j'avais la sensation que tu avais vraiment ce besoin-là d'avancer, quoi, tu vois.
Ah, ça, c'est clair. J'avais ce besoin d'avancer, mais c'est un projet tout à fait, comment dire, pour mettre le mot, tout à fait égoïste. Mais pas dans le sens égoïste où j'ai envie de me mettre en avant, mais plutôt je suis prêt à mettre les œillères et à foncer tête baissée pour aller au bout de mon idée. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ce qui m'a aidé, ça a été de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et aujourd'hui, ça m'aide énormément quand je fais des conférences où il y a, tu sais, ce qu'on appelle... Alors, merde, le nom va m'échapper. Mais en gros, c'est quand tu as un degré de concentration sur la tâche que tu es en train de faire qui est très élevé. Le nom exact m'échappe, mais en gros, tu vois, t'es là, tu es en train de te concentrer pour un truc et il faut pas qu'on te dérange. Et en fait, c'est là où ton cerveau, il circule à haut débit. Un niveau de concentration qui est très élevé, tu es capable de faire par exemple en 10 minutes ce qui d'habitude te prend 4 heures. Et bien en fait, pendant 9 mois, j'ai vécu comme ça. Tout ce que je faisais, c'était en haut débit, c'était vraiment putain, faut que ça aille vite. Et en fait, j'étais vraiment dans une spirale où il faut que je réponde aux exigences de mon cerveau. Or, bah, c'est une spirale et comme n'importe quelle spirale, il faut être capable d'en sortir. C'est pas forcément positif de travailler en permanence à ce niveau-là et de temps en temps, il faut apprendre à ralentir et à couper. Ce que j'étais pas capable de faire à l'époque. Tu sais, tout le monde te dit, ouais, je gère. Alors, je dirais pas du tout que j'ai fait un burn-out parce que j'ai pas explosé en plein vol, mais je pense que j'aurais pas tenu comme ça pendant très longtemps.
Ok. Tu racontais tout à l'heure que t'avais réussi à reconnecter avec ton fils en sortant de cette période-là qui était de travail un peu intense. Je me demandais un peu comment t'avais fait de ton côté.
Je pense que ce que j'ai réussi à modifier de mon côté, c'est le rapport au temps. Où jusque-là, bah, je travaillais énormément dans l'espoir que ça fonctionne, même si j'avais pas vraiment d'idée de ce que ça voulait dire, ça fonctionne. Et à partir du moment où j'ai décroché ma première collaboration, bah, j'ai commencé à pouvoir toucher un peu dessous de tout le travail que je faisais et je me disais, OK, ça y est, maintenant c'est parti. Et si maintenant c'est parti, c'est devenu un job. Si c'est devenu un job, il faut que je l'organise comme un job. Donc à 20h, je coupe le matin quand je me réveille. Je commence pas à travailler avant d'avoir pris mon petit déjeuner, d'avoir discuté avec mes enfants et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où, dans ma tête, j'ai eu l'aspect financier qui est rentré, je me suis dit, OK, je l'organise comme un job. Et du coup, bah, sur mes temps où je ne travaillais pas, bah, j'étais vraiment avec eux. Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à reconnecter avec eux. Et ils m'ont laissé re-rentrer comme ils m'ont laissé ressortir, heureusement. Alors, ils m'ont laissé ressortir, ça n'a pas été de leur responsabilité, mais ils m'ont laissé re-rentrer, en tout cas.
Ok. Est-ce que tu avais mis en place des trucs particuliers pour te dire des moments particuliers, tu vois, par rapport à ce que tu faisais avant, par exemple, avec ton fils ou ta fille?
Concrètement, ça a été deux choses. Créer une distance physique avec mon téléphone. Alors, tu sais, on fait rêver un peu tout ça avec tous ces nouveaux métiers où tu peux tout faire dans ton téléphone. Alors oui, c'est très bien. Tu peux complètement développer une activité avec ton téléphone. La seule chose, c'est que ton téléphone, tu l'as sur toi en permanence. Donc, en fait, tu coupes jamais vraiment. Tu as toujours une notif, tu as toujours un mail, tu as toujours un truc. Donc, mettre une distance physique avec le téléphone. Et après, derrière, c'était de me mettre à leur rythme et de pas leur imposer mon rythme. C'est-à-dire que bah, si lui, il est là en train de dessiner ou s'il est là en train de jouer, c'est pas en train d'arriver à côté de lui en disant « Tiens, regarde, papa va jouer avec toi et regarde comme papa joue avec toi. » Ben non, s'il est en train de jouer tout seul, je suis à côté de lui et je le regarde jouer tout seul. Et ce qui fait que quand il veut venir jouer avec moi, bah, je l'accueille pour jouer avec moi. Et quand 30 secondes plus tard, bah, tu le vois à cet âge-là, hein, il joue avec toi, mais la plupart du temps, il joue à côté de toi. Bah, tu me laisses repartir. Et ma fille qui est beaucoup plus en demande, bah, j'avais aussi l'énergie de jouer avec elle.
T'as pris la parole à un moment donné sur Insta, alors je sais pas si t'as envie d'en parler d'ailleurs, mais parlons-en si tu veux, si c'est le sujet ou pas, mais sur le fait que t'aies été diagnostiqué. Alors le gros mot est surdoué en tout cas, mais on appelle ça, il y a plein de façons, HQI, zèbre, etc., etc. J'aurais aimé savoir un petit peu quel est ton parcours en fait par rapport à cette particularité qu'a ton cerveau d'être câblé un peu différemment. Est-ce que ça a impacté en fait dans ta paternité?
Oui, parce que je trouve que Raphaël est un peu comme moi, mon aîné. Au moins sur la sensibilité. Elle est capable vraiment de faire des montagnes russes en permanence dans les émotions. Et à partir du moment où moi j'ai capté que j'étais comme ça, donc moi je l'ai compris sur le tard, à 32 ans, bah ça m'a permis de me mettre à son niveau quand elle traverse un peu des montagnes russes de manière émotionnelle. Et c'est marrant parce que Raphaël me ressemble et Isaac ressemble à Tania. Du coup, de ce côté-là, Tania et Isaac sont plutôt, entre guillemets, hyposensibles. C'est-à-dire qu'ils vivent leur truc et il n'y a pas grand-chose qui les atteint. Et Tania et Raphaël et moi, on est plutôt à l'opposé où on vit plein de trucs en même temps et du coup, on prend tout un peu de plein fouet. Et donc, je trouve ça bien qu'il y ait cet équilibre dans la famille où on arrive à se capter là-dessus. On arrive à se comprendre. Et tu vois, mais sur des trucs bêtes où typiquement, bah, moi, je suis capable de comprendre quand ça part peut-être d'un petit caprice, même si j'aime pas ce mot-là, mais ça arrive, hein, tu sais, les enfants, ils sentent bien que quand ils pleurent, parfois, ils ont plus d'attention. Et ben, bah, parfois, Raphaël, ça lui arrive de partir là-dessus et puis finalement de se laisser elle-même embarquer dans ses propres émotions et de plus réussir à s'arrêter. Et de me dire que, en fait, autant un petit caprice, on peut lui dire non, écoute, il n'y a pas de raison de s'emballer, tout va bien, d'accord, tu en rajoutes un petit peu, on se calme. Et puis de voir quand finalement, comme un vélo que tu laisserais partir en pente et qui commencerait à aller beaucoup trop vite, et que là, elle n'arrive plus à freiner, ok, là, elle a été dépassée par ses propres émotions, là, tu vas la prendre dans tes bras et tu vas le calmer, ok, tout va bien, papa est là, maman est là, on t'entend, tout va bien, recalme-toi, allez, et on réexplique et on calme. Et ça marche mille fois mieux, en fait. D'avoir un peu de constater cette montée crescendo dans les émotions et de dire bah là ça a dépassé, ou là c'était encore du domaine du raisonnable, on pouvait le raisonner, ou là c'est plus du domaine du raisonnable, là elle se laisse emporter par ses émotions et du coup si on est sur l'émotionnel, ça sert à rien d'avoir un raisonnement logique. En fait, je sais pas si c'est clair ce que je vais expliquer.
Si en fait, je voulais te demander aussi, est-ce que tu as fait ce travail sur toi en miroir par rapport à ta propre fille, ou tu t'es dit, tiens, c'est chelou la façon dont elle fonctionne peut-être par rapport aux autres enfants? Est-ce que c'est...
Bah, j'ai pas d'autres comparatifs d'autres enfants, hein, parce que bon, les autres enfants, ils sont à l'école, à la crèche. Nous, autour de nous, on n'a pas encore beaucoup d'amis qui ont des enfants. Donc, j'ai pas énormément de comparatifs. On fonctionne vraiment sur notre petite cellule familiale, et c'était plus en miroir. Et le coup de bol du miroir, c'est que bah, il s'avérait que, en l'occurrence, on fonctionne pareil. Et donc, elle répond aussi bien que moi à ce qui me fait réagir. Donc, Et du coup, là aussi, c'est une question de chance parce que j'imagine que certains parents peuvent être HES, donc hypersensibles, et avoir des enfants hypersensibles, mais ils ne sont pas sur le même niveau d'hypersensibilité. Donc, ce qui va faire réagir les parents ne va peut-être pas faire réagir les enfants de la même manière. Et donc, ça, c'est difficile. Là, il s'avère qu'elle et moi, on est pareil.
OK. Est-ce que tu arrives à connecter de ce fait-là de la même façon avec ton fils ou est-ce que tu as trouvé des façons...
Non. Bon, après, il est plus jeune, tu vois, il va sur ses 2 ans, mais Isaac, il est très autonome, mais pour tout, tu vois. Là où Raphaël, elle est plus âgée, mais elle a sans cesse un besoin d'attention. Certains disent, ouais, mais ça, c'est le truc des premiers, des deuxièmes. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a vraiment une question d'identité, en fait. Elle, dès son plus jeune âge, elle avait besoin d'être dans les bras, elle avait besoin de nous, elle avait besoin de câlins, elle avait besoin de discuter. Alors que lui, dès le départ, il montrait clairement, Isaac, moi, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de câlins spontanés qu'il m'est fait, tu vois. Il en veut pas. Et quand tu lui prends dans les bras, ça dure une demi-seconde et après, il te repousse. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut juste dire que lui, il n'a pas ce besoin-là. Quand il joue assez tout seul. Tu vois, il n'a pas besoin de toi pour commencer à jouer. Quand il dessine, il n'a pas besoin de toi pour dessiner avec lui. Quand il mange, il gueule si jamais tu lui tends la cuillère. Alors, tous les gens qui nous voient, ils disent, dis donc, il mange seul, votre enfant. Et je dis, ah, non, c'est l'inverse. Essayez de le faire manger, vous. Vous allez vite comprendre. Donc...
C'est intéressant. J'ai les mêmes spécimens chez moi. C'est-à-dire que l'aîné est très dans l'émotion et la petite deuxième qui est 12 ans maintenant, mais très enfermée. C'est très, très dur de lui faire des câlins, etc. Donc, c'est marrant la différence de traitement ou de façon de faire avec elle, comme tu j'imagine tu le fais avec toi, quoi. C'est-à-dire juste tu t'adaptes en tant que parent, quoi.
C'est ça.
Il y a autre chose qui m'a marqué aussi, c'est que tu as eu tes enfants tout seul cet été. Et en fait, je te dis que ça m'a marqué parce que c'est un truc, moi, que j'ai découvert assez tard. Le fait de pouvoir partir tout seul avec mes filles en vacances, parce que... mon ex-femme, on est divorcé là maintenant, tu vois, mais c'est toujours occupé de tout, tu vois. Et j'avais un peu la sensation que, et c'était sans doute une croyance limitante, sûrement une croyance limitante, j'avais la sensation que si je partais avec mes enfants, forcément elles allaient être moins bien traitées, peut-être que même j'allais les tuer d'une manière ou d'une autre, tu vois, que j'allais les laisser mourir de faim ou de conneries comme ça. Qu'est-ce qui fait, toi, que de ton côté, tu t'es dit « Ok, en fait, j'ai envie de passer ce moment-là avec mes enfants tout seul, à 5 et 3 ?»
Plusieurs choses. Déjà, tu vois, sur la peur de les tuer, elle est entièrement légitime. Que tu sois un papa ou une maman, elle est entièrement légitime. Le coup de chance que j'ai, c'est que de par ma formation, moi, je suis formé au premier secours. S'ils s'étouffent, je sais comment réagir. C'est tout bête, tu vois. S'ils font une chute, je sais comment réagir. S'ils font un arrêt cardiaque, je sais comment réagir. Donc, cette peur-là, même si je souhaite absolument pas que ça leur arrive, je saurais comment réagir dans un premier temps. Même si le premier geste, le meilleur, c'est d'appeler le secours, on est d'accord. Hein. S'il arrive quoi que ce soit, petit rappel, si vous avez un doute, vous appelez le 112, vous appelez le 15, vous mettez en haut-parleur, vous restez près de l'enfant et ils vont vous dire quoi faire. Donc, cette peur-là, moi, je l'ai pas. Ensuite, j'aime beaucoup l'idée de se dire que là, on est une famille de 4, mais dans la famille de 4, ça peut être parfois 1 plus 1 plus 1, ça peut être 1 plus 1, ça peut être juste 1, ça peut être juste le papa et un enfant et la maman. Tu vois, que toutes les configurations soient possibles et que toutes les configurations soient OK et que juste quand tu changes de configuration, ça change un peu le truc, mais que c'est assez sympa. Que oui, quand ils sont seuls avec papa, c'est sûr qu'ils seront mal habillés, peut-être que les dents seront un peu moins bien brossées et qu'ils vont manger un peu plus souvent la même chose. Mais qu'à côté de ça, on va peut-être faire d'autres choses. Et donc, ça me plaît bien et tu crées d'autres souvenirs, tu crées d'autres relations. Et donc, pendant ces 15 jours où je les avais, en plus, on était à la montagne. Moi, c'était la première fois où j'étais à la montagne l'été. Ma femme devait rester pour travailler. Donc, il y avait aussi un peu, tu vois, cette... c'est un peu con ce que je veux dire, mais cette image entre guillemets de avec beaucoup de bienveillance, je veux dire de vieille France où en gros où t'es là où t'as une situation sanitaire globale qui t'oblige à t'adapter, où ta femme doit travailler, elle est réquisitionnée, où toi finalement tu peux pas trop travailler, faut t'occuper des gamins et t'as personne pour les garder, tu te dis bon bah je vais partir en France dans les Alpes, tu vois, puis ça va être génial, tu vois, juste tu racontes une autre histoire et tu t'adaptes et tu passes un super moment parce que tu casses tous les codes, en fait. Tu casses tous les codes. T'as plus l'école, t'as plus le boulot, t'as plus les trucs, t'as plus maman, t'as plus... Et on a passé un super moment. Alors, et j'appréhendais, je pensais que ça allait pas être facile. Et puis finalement, comme dans ma tête, je savais que j'allais être réquisitionné full-time, et ben j'étais prêt, quoi. Et ça m'a pas empêché, tu vois, de partir, de prendre ma PlayStation 4 dans mon sac et le soir, quand ils étaient couchés à 21h30, de pouvoir me faire 3 heures de PlayStation à jouer à The Last of Us, et c'est l'une des plus belles périodes de ma vie.
Ça t'a appris quoi exactement, ces 15 jours passés? C'était la première fois que tu partais en vacances
avec les deux? Oui. J'ai déjà eu, quand justement Tania était partie aux îles Fidji, j'étais déjà seul avec Raphaël. J'ai déjà été seul avec Isaac, mais donc seul avec les deux, non. Qu'est-ce que ça m'a appris? De toute façon, à chaque fois que je combine moins de réseaux sociaux et plus de temps avec les enfants, tu te dis, putain, mais en fait, qu'est-ce que je me fais chier à passer mon temps sur mon téléphone? Mais vraiment, je deviens dur, hein. Je sais pourquoi je le fais, je le sais que derrière, quand je vois les réactions des gens, comme la tienne tout à l'heure sur le psoas, je sais que il y a, allez, un truc plus grand derrière ma jambe mouvement, qui dépasse Grégoire largement, tu vois, qui est la santé, qui est le bien-être des gens, qui me dépasse largement. Et c'est pour ça que je continue. Mais à côté de ça, c'est pas tous les jours facile, et que quand je coupe et quand je suis avec eux, juste, c'est con ce que je veux dire, mais juste dans l'instant présent, mais ça a une telle valeur importante que je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas complètement en train de faire fausse route, quoi? Et toi, et moi, et n'importe qui, à vouloir toujours travailler plus, pourquoi? Pour un truc qui est un peu fumeux, un peu palpable, qui est peut-être juste dans notre tête, de se dire, bah, Major Mouvement, c'est un projet de grande ampleur, mais en fait, en réalité, sans Major Mouvement, les gens vivaient, et sans Major Mouvement, les gens vivront, ce qui n'est pas le cas de mes enfants, où du coup, ils vivront toujours, mais pas du tout de la même manière. Donc, tu vois, il y a de ça où quand tu passes du temps vraiment seul avec eux et que tu coupes tout le reste, tu te dis, ah ouais, putain, mais en fait, c'est ça la vraie vie. Et puis en ce moment, je sais pas si je suis le seul, je pense pas être le seul, mais ce confinement, il te fait vachement revoir toutes les choses en perspective, quoi. Tu te rends compte, en fait, à quel point la société dans laquelle on vit, elle est fragile, que depuis le déconfinement, c'est un bordel sans nom dans tous les sens. T'as juste l'impression que les gens se disputent, mais 10 fois plus qu'avant. Et moi, je me dis juste, oh, ça m'en est plein le cul, quoi. On est plein le cul. Donc, et finalement, quand on a plein le cul de tout et que t'as tout envie de balancer, bah, les enfants, c'est quand même un vachement bon support, parce que tout l'investissement d'amour et d'énergie que tu mets, tu l'as immédiatement et de manière durable en retour.
Jusqu'à l'adolescence, où il y a une petite parenthèse, tu vois. Où...
Voilà. Et alors, je fais partie de ces papas-là, sûrement un peu naïfs, qui se disent que, mais non, l'adolescence, attends, j'ai construit tellement de trucs aussi solides pendant leur petite enfance que l'adolescence, ça va glisser sans problème. Et quand je te vois rire, je me dis que je sais absolument pas ce qui m'attend. Bon,
moi, si tu veux, on refait un épisode dans 10 piges et on en reparle. et en fait, c'est même pas pour te faire peur que je te dis ça, mais c'est juste une autre phase, en fait. C'est ça qui est trop intéressant. C'est-à-dire que la phase de cette petite enfance-là, et en fait, je suis 1000 fois d'accord avec toi sur le fait de réussir à en profiter le plus possible, en fait, parce que, et tu vois, je t'entendais parler tout à l'heure du fait de faire des câlins à tes filles, etc. Moi, c'est un truc aujourd'hui que je regrette, tu vois, avec où elles grandissent, c'est qu'on continue à se faire des câlins, en fait, mais on se fait plus les mêmes câlins qu'avant, quoi, tu vois. Et c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est le jeu. Mais toi, en tant que daron, tu vois, t'es là, ah merde, avant, on faisait des plus gros câlins et c'était plus cool. Et aujourd'hui, bah, forcément, il y a une distance physique qui se crée. Et heureusement, hein, tu vois, et tant mieux. Mais toi, en tant que père, je pense qu'il y a un truc où il faut que t'apprennes à à le gérer, à gérer cette distance. Et je pense qu'en plus, ça t'amène à, bah, demain, ils vont quitter la maison et en fait, peut-être qu'ils iront vivre à l'étranger, peut-être qu'on se verra d'autant moins. Et voilà quoi.
Ça me serre le cœur quand tu me dis ça.
Ah, je suis désolé.
Mais heureusement que c'est dans longtemps parce que je suis pas prêt.
Profites-en. Ouais, non, mais c'est ça aussi, c'est que c'est cool, c'est qu'il faut en profiter. Mais je pense qu'en plus, ça, tu finis par te préparer aussi avec le temps, quoi. Tu vois, c'est sûr que si là aujourd'hui ta fille elle passait de 5 à 15 ans, quoi, tu vois, ça te ferait bizarre. Mmh. Et ça va graduellement, c'est ça qui est cool. La dernière question que je pose à tous mes invités, c'est imagine dans 10 ans, tes deux enfants retrouvent ce podcast. Quelque part sur Internet. Que sera Internet à ce moment-là, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle retrouve, tu vois, sous forme de fichier .mp3. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ?
Que je les aime. Bah, j'espère surtout que ils n'ont pas besoin d'écouter un podcast pour le savoir.
Merci beaucoup, Grégoire.
Avec plaisir.
Je sais que c'était pas forcément un exercice facile pour toi de venir
c'était
parler
très
de,
difficile.
De
c'était
paternité.
Très difficile. C'était très difficile parce que je savais pas tellement quelles étaient tes attentes. Je savais même pas ce que je pouvais m'autoriser à dire. Et c'est un sujet sur lequel je suis particulièrement pudique. Et donc, finalement, je me suis rendu compte que j'ai pas tellement parlé de paternité, ni d'éducation, ni de relations avec mes enfants parce que c'est quelque chose que j'estime assez privé, pas dans le sens où je veux le garder pour moi, mais dans le sens où je veux le garder pour eux, en fait. Je sais pas si c'est clair.
Carrément. Et l'un des trucs moi que j'ai découvert en faisant plus de 60 épisodes, c'est que on a souvent la sensation que c'est un truc très personnel, alors qu'en fait c'est beaucoup plus universel qu'on le pense, en fait. Tu vois, on a la sensation de vivre une histoire très très à nous, en fait, alors que on vit tous la même histoire. Chacun de notre côté, parfois dans nos doutes et dans nos flips, tu vois. Et que c'est pour ça que je te remercie d'être venu parler et que je remercie tous les autres darons qui sont venus parler avant. C'est que, en fait, venir libérer la parole, ça aide les autres pères, en fait, les futurs papas qui sont en train d'écouter et qui peut-être vivent, tu vois, les mêmes anxiétés que toi et qui se disent, OK, en fait, c'est normal, je suis pas juste zinzin dans ma tête à avoir peur tout seul, quoi, tu vois. Donc, ça, c'était cool. Merci à toi.
Je t'en prie, avec plaisir. Je sais, tu vois, au moment où tu résumes ça, je sais pas si j'ai apporté plus de solutions que de soulever des problèmes, mais.
T'as apporté plein de solutions, en fait. Le simple fait de le raconter, déjà, c'est une vraie solution, tu vois. Le simple fait de dire, moi, j'ai vécu ça. Et en fait, c'est normal, et avec le recul, l'analyse comme ça, etc. Quand toi, t'es dans le jus en ce moment, je pense que peut-être, tu vois, il y a 6-7 ans, quand t'étais en train de vivre ça, t'aurais peut-être aimé entendre.
Quelqu'un qui me dise c'est normal, ça va s'arrêter un moment.
Exactement. Donc, c'est un peu, je pense que c'est à ça que ça sert.
Ok.
Bon, je mettrai tous les liens pour venir te suivre, découvrir si vous avez mal au psoas comme moi, comment faire pour aller mieux, et aussi le lien vers ton fameux bouquin où effectivement tu files plein de conseils pour mieux bouger d'une manière générale.
Exactement, mieux bouger, mieux sentir dans son corps, perdre du poids, traiter la tendinite, traiter le mal de dos.
Parfait. Un grand merci à toi.
Avec plaisir, Fabrice. J'espère que ce podcast plaira aux éditeurs et merci pour ton invitation.
C'est sûr et certain.
Allez, salut.
Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en 10 ans. Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.